Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Mélanie, qu'avons-nous au programme ?
Eh bien Julia, on va démarrer ce matin, comme à notre habitude, par une question sentimentale aujourd'hui. Peut-on réellement aimer plusieurs personnes à la fois ? Voilà, donc nous allons parler d'amour et plus particulièrement de polyamour, de ces couples qui sortent de la norme de la monogamie. Comment gère-t-il la jalousie ? Tous les partenaires s'aiment-ils vraiment à égalité ? Pour en parler, notre invitée, ce sera la psychologue Véronique Cohn.
Et puis Mélanie, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour consacré à la fertilité ce matin. Comment maximiser ses chances de concevoir un enfant ? À partir de quand juge-t-on qu'il y a un problème, justement, ou des difficultés avérées pour l'homme ou la femme ? Nous ferons le point avec le professeur Nathalie Massin. Elle est médecin de la reproduction au centre AMP à l'hôpital intercommunal de Créteil.
Ensuite, Julia, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour sera portée par la journaliste culinaire Sophie Menu. Ce midi, elle nous propose de réaliser et de déguster un plat qui va nous faire du bien vu la saison. Nous allons nous régaler avec la choucroute. Ensuite, on partira en balade, en vadrouille avec notre spécialiste loisirs, Soizic Belin. Elle a repéré pour nous des visites insolites, notamment une visite féministe qui met en avant les femmes importantes qui ont marqué la ville.
Et puis, nous terminerons ce tour de table du jour avec notre reine de la mode, savoir Sophie Braffman. Elle nous parlera ce midi de vêtements dits gender fluid, une mode qui facilite le rangement du dressing entre monsieur et madame. Vous l'entendrez.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Aujourd'hui, on va se poser ensemble cette question. Peut-on réellement aimer plusieurs personnes à la fois ?
Et oui Mélanie, on va décortiquer ensemble ce qu'est le fameux polyamour, phénomène amoureux dont on entend de plus en plus parler. Et justement, dans ces couples qui s'éloignent de la norme ancestrale de la monogamie, comment s'organisent les choses, les sentiments ? On va regarder tout ça dans le détail avec notre invité dans quelques minutes. Mais en attendant, c'est un grand amoureux qui va prendre la parole.
Oui.
Oh oui, il aime les gens, et ça c'est certain, et vous leur tendez tous les jours le micro avec beaucoup d'amour, c'est bien sûr Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, Clément. Effectivement, tous ceux à qui je tends le micro, je les aime pareil en fait. Je vous aime absolument pareil, c'est déjà le début du polyamour. On va s'intéresser déjà à ce terme qu'on entend effectivement de plus en plus. J'ai demandé aux enfants s'ils connaissaient ce terme ou ce que ça pouvait leur évoquer.
Selon moi, le polyamour, c'est le pollen d'amour. Oh. C'est quand deux amoureux s'aiment très fort et ils sont polis, ils disent merci, s'il te plaît.
C'est comme le Monopoly, mais sauf que c'est que pour les amoureux.
C'est quand les polypockets sont amoureux, je crois.
Alors, il y a pas mal d'idées. Peut-être
c'est trop
que
mignon.
L'amour des polypockets, peut-être. J'aime beaucoup, moi, l'amour très poli. De, ouais. Voilà, est-ce que tu veux bien m'aimer, s'il te plaît ?
C'est alors, poli et c'est amoureux
c'est
en même temps.
Ouais. Mais la vraie définition, effectivement, c'est plusieurs amours. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, en même temps, parce qu'on peut évidemment aimer plein de gens tout au long de sa vie. Ouais. En même temps, c'est plus dur quand il s'agit de son propre couple. J'ai demandé aux Français, j'ai d'abord trouvé des sceptiques.
Je ne suis pas sûre que nous puissions aimer plusieurs personnes à la fois. Je pense que les sentiments ne sont pas les mêmes.
Pour ma part, aimer deux personnes de la même façon, c'est juste inconcevable. Autant je pense qu'on peut aimer, voilà, c'est le cas pour moi, aimer ses enfants de la même façon. Mais par contre, son amoureux ou son amoureuse, non. Non, non, il y en a bien qu'un.
Oui, je connais le polyamour. J'ai un couple d'amis qui pratiquent. Mais j'ai pas du tout le même fonctionnement de vie. Je suis beaucoup trop jalouse pour ça.
C'est le mot qui ressort le plus, la jalousie. C'est allez, on essaye. Non, non, c'est qui tu la préfères à moi. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup de personnes contre.
Je pense que c'est vraiment juste une expression pour dire qu'on est infidèle.
J'ai vécu ça avec mon ex, sauf que c'était un charreau et que c'était plus une façon d'avoir une autre meuf.
Un charognard. Hein,
un charognard, ça, effectivement. Ouais. Et ça peut être une manière déguisée de tromper tout simplement la personne. On va en parler tout à l'heure. Et heureusement, j'ai trouvé des personnes qui le vivent bien, qui sont plutôt pour.
Oui, je pense que c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Pourquoi pas ?
J'aimerais pas que ma chérie me propose ça. Mais si elle l'accepte pour moi, ça me dérangerait moins.
Évidemment, ouais, c'est
voilà, ça.
Ça,
on va en reparler tout à l'heure.
Je pense qu'il faut que tout le monde soit d'accord quand même. Hein.
C'est le but et c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
Très bien. Merci beaucoup Clément Lanoux une fois de plus pour cette belle enquête de terrain qui nous éclaire déjà un peu sur notre thème du jour. À présent, on va aller encore plus loin, plus en profondeur dans notre sujet avec Véronique Cohn. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue. Alors, on va reprendre les choses à la source avec vous justement. D'abord, c'est quoi la définition définition du polyamour, s'il y en a une, hein, précise. Je pense que ça n'a rien à voir ni avec le pollen, ni avec le fait d'être poly.
La définition qu'on donne en général, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes à la fois, effectivement, mais en transparence et avec le consentement de chaque partenaire.
Mmh. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des troubles ?
Un troupe, c'est à trois.
Ouais.
Donc, non, ça peut être... alors, il y a plusieurs formes de polyamoureux. Il y a un célibataire qui a un suivi avec plusieurs personnes. Mm-hmm. Il peut y avoir, et c'est souvent le cas, la majeure partie en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est un couple qu'on appelle un couple primaire. Bon, j'aime pas trop le mot primaire, ça fait penser à des hiérarchies.
Donc, un couple qui était déjà ensemble.
Un couple déjà ensemble, ouais. Formé. Et à partir de là, ils ont des partenaires annexes. Enfin, ils peuvent s'en offrir, ce n'est pas une obligation non plus. Mais on peut avoir des partenaires selon les opportunités voilà, qui se présentent.
Et donc, si c'est un partenaire avec un couple, c'est un trouple. Mais s'il y en a plusieurs, voilà, on n'appelle pas
c'est
ça.
C'est que chaque partenaire dans le, au sein du couple a le droit d'avoir des partenaires. Et ils ne se croisent pas forcément. Hein. Parfois, ils se rencontrent ou pas, les partenaires annexes.
Ah oui, donc, il n'y a pas forcément une relation amoureuse entre tous les partenaires,
non.
En fait.
Hein, bah non. Le trouple, oui, ils se connaissent à trois. Mais c'est une particularité. C'est assez faible, hein, les troubles. Il y en a assez peu. Hein. Majorité, c'est quand même, je vous dis, un couple. On appelle ça un couple primaire et puis les secondaires.
Quoi. Ils pollinisent hein, quelque
ouais,
part.
C'est ça. Pollinise.
D'accord. Donc moi, si par exemple je veux faire du polyamour, eh ben je peux avoir des partenaires pour moi que je suis pas obligée de présenter à mon partenaire primaire.
Tout à fait. Sauf si ils ont envie de se rencontrer, mais voilà. Chaque cas est différent. Il y a plein de cas différents dans le polyamour.
Donc le polyamour, finalement, il y a plusieurs façons de définir
énormément de façons.
Les couples. Enfin, c'est...
Ah oui, c'est multiforme. Ouais. Et chaque personne le fait selon comment il l'entend. Voilà, il n'y a pas de généralité.
Clément ?
Et est-ce que vous voyez des couples où il y a du polyamour, mais que d'un côté ? Un l'accepte et l'autre n'a pas forcément le désir de...
Ça peut arriver aussi, hein, tout peut arriver. Alors, notamment les profils de personnalité genre ermite, ça les arrange bien que leur femme ou leur compagnon, homme, ça dépend, hein, puisse avoir des partenaires ailleurs. Comme ça, ils sont moins encombrés, moins embarrassés. Mmh. Et les intellos.
Donc en fait, on peut vivre avec un polyamoureux sans l'être soi-même.
Mais complètement. Ça. Mais c'est une acceptation. En fait, j'accepte que tu aies plusieurs partenaires. Parce que je ne suis pas jaloux, en fait. Mmh.
Oui, alors est-ce que ça concerne plutôt des homosexuels ou des hétéros ? Et est-ce qu'on sait le nombre de personnes en France qui pratiquent le polyamour ?
Ça concerne plutôt des hétéros. Il y a des homos. Le mouvement LGBTQ est assez aussi dedans. Mais ce n'est pas, pas forcément stigmatisé sur cette partie de la population. C'est plutôt des hétéros, en général. Nombre de pourcentages, d'après les statistiques, c'est environ moins de 2%.
Mmh. Bon, c'est assez faible. Ouais.
C'est une minorité.
Moins, hein,
Non. Alors après, les statistiques, on va pas, préciser, on va pas aller dans une liste gouvernementale, on va pas nous déclarer. Mais bon, on n'est pas nombreux en fait, hein, les polyamoureux.
Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez.
Je me dis qu'il y a beaucoup de polyamoureux qui le font en cachette en fait. Donc,
ce sont pas des polyamoureux. N'oubliez pas la définition. C'est en transparence, donc en honnêteté.
C'est pas l'infidélité.
Et en consentement.
Qui ont la même vie, mais non.
Moi, j'appelle ça tromper en sous-marin. Les infidèles. En couple et qui cache, etc. Ça n'a rien à voir avec le polyamour.
Et c'est pas quelque chose, enfin en tout cas une façon d'être amoureux qui ne concerne que les jeunes. Hein. Il y a des couples.
Non. Mais moi, je suis concernée. Hein. J'ai passé mes 9 dernières années de relation en polyamour. Et avant, j'avais un couple classique. Et encore avant, j'ai passé 15 ans comme
ça. Et vous n'avez pas 19 ans, quoi, c'est ça ?
Non, j'en ai 56, donc vous n'avez qu'à voir. Non, mais j'ai passé, moi, avant que le mot existait, j'étais déjà là-dedans. Hein.
Ouais, mais c'est bizarre de le définir, justement, parce que les personnes dont on parle en sous-marin peuvent être, dans le sens littéral du terme, avoir plusieurs amants, aimer vraiment deux personnes en même temps. Pas avoir l'acceptation de l'autre côté.
Complètement, oui, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on le déclare à notre partenaire et que c'est accepté par notre partenaire. Bien sûr qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois. On aime bien... Alors, quand vous disiez des enfants, on aime bien nos enfants, mais on les aime pas forcément de la même manière, d'abord. Mmh. On peut les aimer différemment. Il peut y avoir des chouchous. Et pareil, dans le polyamour, effectivement, on peut aimer plusieurs personnes à la fois.
Eh bien, Véronique Cohn, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. On va s'immiscer un peu plus intimement dans ces couples à plusieurs. Peut-on réellement aimer avec la même intensité plusieurs personnes en même temps ? N'y a-t-il pas toujours un perdant dans ce type de relation ? Quelles sont les clés, éventuellement, pour que cela fonctionne ? On y revient très vite sur Europe 1. Alors, restez avec nous.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit, ma vie se passe toujours au ciel de nuit.
Et oui, c'était Brigitte Bardot qui testait peut-être elle aussi à sa façon le polyamour. De retour dans Bienfait pour vous, votre émission dans laquelle on parle de notre vie quotidienne, mais aussi de la société dans laquelle nous vivons et qui ne cesse d'évoluer. Et donc ce matin, nous regardons du côté de l'amour et notamment de ce phénomène dont on parle davantage ces derniers temps, le polyamour. Peut-on réellement aimer plusieurs personnes à la fois? On fait le point avec la psychologue Véronique Cohn. Merci d'être avec nous. Véronique, est-ce qu'on peut réellement aimer deux personnes à la fois avec la même intensité? C'est quand même la question centrale que l'on se pose. Alors, on sait que vous avez expérimenté, vous êtes vous-même une polyamoureuse.
Oui, la même intensité, je dirais pas forcément. C'est pas évident de nourrir deux couples en même temps. On imagine comme ça qu'on pourrait vivre... Il y en a certains qui le font sur deux couples en parallèle. Ça, c'est encore plus rare. Parce que il y a ce qu'on appelle le NR, l'énergie de la nouvelle relation. Quand on rencontre un nouveau partenaire, il y a cet état de coup de foudre, d'état amoureux qui nous imprègne. Et du coup, là, pour le coup, c'est hyper intense. Mais après, il faut être capable de faire vivre de l'intensité ou de l'amour selon des états amoureux différents avec nos différents partenaires. L'idée, c'est quand on est en couple, par exemple, et qu'on est polyamoureux, qu'il y a un nouveau partenaire qui rentre dans le champ, c'est de ne pas désinvestir notre relation primaire, quoi. Sinon, c'est vraiment dommageable. Là, ça n'a plus aucun intérêt.
Alors, j'imagine que quand on pratique le polyamour, on recherche deux personnes qui ont des caractères différents, non ? Comment vous pouvez...
C'est pas qu'on recherche deux personnes, c'est qu'on est plutôt en mode opportuniste. C'est-à-dire que on n'essaye pas forcément de rencontrer une autre personne qui est vraiment différente de nous. C'est qu'en fonction des rencontres que l'on fait, on va matcher ou pas. Ben, c'est comme dans la vie normale. Hein. Et effectivement, souvent, on va trouver que les autres sont complémentaires. C'est-à-dire, chacun va apporter quelque chose de différent, une nourriture différente, un aspect différent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai remarqué sur moi, c'est qu'à chaque fois que j'avais un autre partenaire, c'est que je rencontrais des aspects différents de moi-même, surtout. Ah, oui. Ben, je ne me comporte pas du tout de la même manière avec un tel et un tel, en fait.
Vous avez vu jusqu'à combien, si ce n'est pas trop indiscret, parce qu'on dit polyamour, on a dit, bon, il y a des troubles, certes, il y a des couples aussi où finalement, ben, on a un couple...
On ouvre. En fait, c'est des couples ouverts.
Mais vous êtes allé jusqu'à combien d'amour en même temps ?
Oh ben on peut avoir, je ne sais pas, moi j'ai toujours été plutôt en mode, j'ai un couple comme ça, je suis installée dans un couple et après j'avais 2, 3, des fois 4. Mais alors ça peut être des partenaires ponctuels aussi, c'est le nombre de fois qu'on les voit.
Mais
alors,
c'est si pas on que sexuel, voit... on est d'accord, vous êtes amoureuse de ces autres personnes.
Et moi il y a même des partenaires que je connais depuis 25 ans et que je vois, je ne sais pas, une fois par an. Alors est-ce que c'est pas, ça dépend de l'investissement de la relation. Si on est très investi et du temps qu'on passe ensemble, ça va donner vraiment des problématiques différentes ou des configurations différentes. Imaginez si je suis avec mon partenaire, je suis en couple avec lui et j'ouvre et j'ai un autre partenaire que j'ai envie de voir parce que je suis très amoureuse, j'ai envie de le voir très souvent. Alors là, ça va commencer à poser des problèmes. C'est le niveau d'investissement qui va générer des changements en fait.
Alors j'imagine que tout n'est pas rose dans le polyamour.
Non.
Et alors on va parler de la jalousie dans quelques instants, mais au-delà de ça, j'imagine que le regard des autres, c'est pas évident à supporter.
C'est première étape, c'est être capable de sortir des sentiers battus et d'oser, d'assumer d'être différent, de pas être monogame. Voilà. Alors, moi personnellement, ça m'arrangeait bien parce que j'aime pas être dans le cadre. Ça peut aussi être faire partie de certains profils qui n'aiment pas rentrer dans le moule, par exemple. Mais en même temps, faut l'assumer, hein, parce qu'on va être stigmatisé. Moi, en tant que femme, maintenant moins, parce qu'il y a les polyamoureux, c'est connu. Mais à un moment donné, 15 ans en arrière,
vous avez été
un peu précurseur. Quand même. Ouais, après, il y avait Simone de Beauvoir avant. Enfin, il y a eu toujours.
Vous voulez dire
que c'est
toujours existé, pour les hommes d'avoir assumé le polyamour.
Oui, c'est ça. En tant que femme, j'étais pointée du doigt quand même.
Est-ce que les polyamours durent aussi longtemps que les couples traditionnel, qu'est-ce qu'on voit en général?
Alors ça on ne sait pas, mais par contre ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des périodes dans notre vie où on a envie d'explorer, d'accord, on a envie d'ouvrir, de découvrir.
Ce qui n'est pas votre cas en ce moment. Hein.
Ce qui n'est pas mon cas en ce moment, mais ça a été souvent mon cas quand même. J'ai souvent été une exploratrice de l'amour, d'expérimenter des nouvelles choses. Donc c'est vrai que ce modèle ouvert, il permet d'explorer. Maintenant, quand on a vraiment envie de stabilité ou qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir besoin de se sécuriser avec un partenaire et un seul, il ne faut pas partir dans le polyamour.
Oui, ce n'est pas fait pour
nous. Parce que c'est insécurisant comme modèle. C'est un modèle qui est extrêmement exigeant, il faut le savoir.
Alors justement, il faut avoir confiance, évidemment. Et est-ce qu'on peut imaginer...
Confiance en soi, d'abord. Parce que confiance en l'autre, on sait que l'autre peut avoir des partenaires potentiels, puisque c'est le principe du polyamour.
Oui, mais alors ça veut dire que si l'autre a des partenaires, on peut aussi avoir confiance en lui en se disant, OK,
il reviendra ailleurs, vers moi quand même, mais ça ne remet pas en cause l'amour qu'on
c'est
se porte.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être explicite, dont on doit parler ensemble dans le couple. C'est ok, je suis avec lui, mais en cas d'état amoureux, enfin, si tu pars en étant amoureux d'une autre, est-ce que tu me lâches pas? Comment on fait? Comment on gère en fait hein? Et les couples qui durent longtemps, les polyamoureux qui durent longtemps, justement, c'est parce qu'ils ont, ils sont positionnés en couple et qu'ils savent qu'ils vont pas se lâcher pour le premier qui passe, quoi.
Même si l'amour est là.
Même s'il est amoureux, mais parce que il y a une espèce de recul et on sait que l'état amoureux n'est pas l'amour, en fait.
Donc il y a quand même une fidélité au sein du polyamour.
Ah bah le polyamour, c'est être fidèle à plusieurs. C'est un suivi, ça n'a rien à voir avec la polysexualité. La polysexualité, c'est bon, bah, on fait de l'échangisme, c'est juste de la sexualité. Là, c'est un suivi amoureux et ça veut dire qu'on va être fidèle à chaque plusieurs. Personne, en fait.
Mais vous viviez qu'avec une seule, alors comment, techniquement, comment ça se passe?
Ça dépend, hein. Il y a des cas de figure où ils vivent tous ensemble. Moi, j'ai vécu à une période de ma vie, on était à trois, on a vécu en troupe, justement, on était à trois sur le même territoire. On avait décidé ça parce qu'on avait envie de faire cette expérience. Maintenant, on peut aussi. J'ai vu des couples à quatre, des doubles couples qui vivaient ensemble pendant un an. Bon, c'est compliqué, hein. Même l'organisation.
Qu'est-ce qui est compliqué ?
Ce qui est compliqué, c'est pas que le croisement amoureux, c'est aussi toute la logistique. Et des histoires de jalousie souvent.
J'allais dire, est-ce que les femmes sont plus jalouses que les hommes dans ce genre de relation ? Pas vous qu'elle l'avez bien observé.
Personnellement, hein. J'ai fait des expériences sur moi, j'ai beaucoup observé, je suis aussi thérapeute de polyamoureux. Ce que je peux remarquer, c'est que même les femmes qui se déclarent polyamoureuses en théorie, parce que la théorie est hyper séduisante, hein. C'est la non-possessivité, c'est génial de s'ouvrir
comme ça. C'est peace and love, quoi.
C'est peace and love, et puis c'est surtout, on va dépasser la jalousie, on est pas possessif, on est au-dessus de tout ça.
Mais dans les faits.
Mais dans les faits, pour les femmes... c'est beaucoup plus compliqué de se dire je suis polyamoureuse et je gère les doigts dans le nez ma jalousie. Parce que, en fait, et moi je pense que c'est une histoire biologique, que par rapport à la reproduction et à la survie de l'espèce, on a quand même, nous, les femelles
de notre espèce,
on a dû sélectionner un mâle et puis essayer de le garder, le fidéliser, le fiabiliser pour nous protéger, en fait, le plus longtemps possible. Donc on est, en général, et ça c'est pas que moi qui le dis, il y a des articles scientifiques qui ont montré qu'on est beaucoup plus sélective et en même temps, on a vraiment envie de garder
pour nous le mâle.
Ouais.
Mais alors, comment on gère justement quand on a des enfants déjà et puis aussi quand on en veut? Comment on fait?
Eh ben, quand on en a, moi c'était mon cas, hein, je suis arrivée dans le polyamour et j'avais déjà des enfants et lui aussi, donc on a mis tous nos enfants en commun. Pour les enfants, c'était la tribu, donc c'était hyper sympa en fait.
Mais ils comprenaient, qu'il y avait.
En fait, c'était naturel. Il y avait de l'amour et donc c'était simple en fait. C'était présenté, c'était assumé.
Mais ils connaissaient tous vos amoureux, par exemple.
Ils comprenaient que c'était vos amoureux.
C'était nos amoureux et on en parlait et c'était assumé. Donc quand c'est assumé, quand les parents sont pas angoissés et qu'ils l'assument, il y a de l'amour qui circule et tout va bien. C'est quand c'est pas assumé que ça va pas. Hein. Après, ce que vous disiez, c'est quand on est.
Quand on souhaite, mettons.
Quand on souhaite, on n'en a pas encore et on souhaite. Avoir des enfants,
bon, là, on il le va fait falloir... avec lequel de ses amoureux quoi,
déjà, il va falloir choisir. Se positionner. Et puis, c'est une histoire de positionnement et d'ajuster, de réguler entre eux. Mais le polyamour, c'est beaucoup en lien avec la communication.
J'imagine qu'il faut se parler.
Il faut beaucoup parler et anticiper quels vont être les problèmes potentiels qui peuvent être soulevés. Et puis réguler au fur et à mesure, sinon c'est pas possible, c'est ingérable.
Véronique Cohn, vous restez avec nous. Il y a encore beaucoup de choses qu'on veut comprendre sur le polyamour et nos auditeurs également. Ils ont des questions pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas, on vous donne la parole. Vous pouvez nous laisser vos questions au 3921, notre répondeur, ou encore sur les réseaux sociaux, par exemple sur le compte Instagram de notre émission.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. Nous sommes toujours en studio avec la psychologue Véronique Cohn. On s'intéresse au polyamour aujourd'hui avec elle. Et donc, on va commencer par prendre la question de Thierry à Dijon, au 3921. Notre répondeur, il demande « Est-ce qu'il y a forcément des différences de sentiments si jamais une troisième personne s'est greffée à un couple déjà existant ? J'imagine qu'on aura développé davantage de sentiments avec celui ou celle que l'on connaît depuis plus longtemps. »
Oui, c'est un peu normal. Quand on approfondit une relation pendant des années, on se connaît mieux. Il y a ce qu'on passe de l'état amoureux à l'amour, justement. Donc ça, c'est normal.
Mais il y aura plus de passion, peut-être, pour ce nouvel arrivant.
Oui, voilà. Il y a peut-être plus de passion. D'ailleurs, ça, quand on rajoute une tierce dans un couple, souvent, c'est vecteur de, d'excitation, donc de jalousie. Et donc, du coup, on a plus la passion qui remonte. Hein.
Bien sûr. Ah oui, vous voulez dire que ça peut aussi recréer de la passion dans son propre couple.
Ah, mais carrément, oui. Ouais. Bah, dès qu'on a...
Ça challenge un peu.
Ça challenge carrément. Ça. Le couple qui s'endort, il ne s'endort plus du tout. Là.
Coucou chérie, je te présente machin.
Ah, bah, carrément.
Ça met du piment, ça, j'imagine. Alors, c'est quoi le profil des polyamoureux? Les bons candidats pour se lancer dans le polyamour?
Alors, c'est ceux qui sont épris de liberté, ceux qui sont un peu rebelles aussi par rapport aux normes sociales, ceux qui n'ont pas envie de renoncer à tout, parce que là, c'est pas tout en un, hein, c'est tout en deux, tout en trois. Et donc, oui, ceux qui gèrent mal la frustration ou ceux qui ont envie de dépasser la possessivité.
Et pour, oui, alors, apparemment, c'était votre cas, vous vouliez dépasser la jalousie. La question, c'est est-ce que vous y êtes arrivé?
Non, j'y suis pas arrivée. J'ai fait du déni même. Je crois que je suis tombée malade l'année dernière parce que j'ai vraiment cru que je dépassais la jalousie en moi-même en ayant d'autres partenaires et en trouvant ça fun parce qu'il y a du fun. C'est vachement riche quand même. Il y a de l'intensité et tout, de la nouveauté, de l'intensité. Ça, c'est les bons côtés. Mais après, oui, il faut être capable de gérer la jalousie. Moi, j'étais un peu dans le déni de ça. Quoi.
Vous avez un peu décrit le profil des personnes qui seraient, enfin, en tout cas, tentées ou bons candidats au polyamour. Est-ce qu'il y a des gens à qui on pourrait conseiller le polyamour parce que
carrément.
Ça leur ferait du bien?
Ah oui, oui, oui.
À qui, par exemple?
Justement, ceux qui sont dans des périodes d'exploration, qui ont envie de découvrir des nouveaux modèles, qui ont envie de se rencontrer davantage, parce que c'est vraiment un marathon de développement personnel sur soi. Hein.
Parce qu'on rencontre d'autres gens, mais on se rencontre mieux.
On se
aussi.
Rencontre surtout nous, en fait. Ah ouais. C'est surtout soi qu'on rencontre là-dedans, à travers les autres. On se connaît mieux, on apprend de se rencontrer sur plein de facettes de nous-mêmes, y compris sur la facette de la jalousie, mais pas que.
Donc, vous n'êtes pas arrivé au bout, vous,
encore,
non,
moi, je ne suis pas arrivée au bout, mais comme c'est hyper vecteur de stress, il faut le dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon observation, et pas que pour moi.
C'est quoi qui est stressant dans ces polyamours?
D'abord la jalousie, il n'y a pas que, il y a aussi les problèmes d'agenda, hein, c'est l'organisation matérielle, parce que dans le concret...
Julia, vous seriez bonne avec votre organisation.
Ah, je suis hyper organisée.
Qui on voit quand, à quelle heure, comment...
10 polyamoureux, moi.
Combien de fois par semaine? Est-ce que l'autre, notre partenaire, ça va lui aller ou pas?
Ça va être fatigant un peu, quand même.
C'est hyper fatigant. Ouais.
Et puis même, je sais pas, on a une question là qui, c'est vrai que c'est une question assez technique hein, de Samira sur Instagram. Dans le cas des troupes, comment on dort à trois dans un lit? Est-ce qu'il faut investir dans un lit en 180?
Oui, c'est mieux. Ouais. Après, en général, on peut aussi avoir plusieurs chambres et plusieurs lits.
Oui. Hein, on n'est pas obligé de tout partager.
On n'est pas obligé de tout partager. Et je pense que ce qui est récurrent en commun chez tous les polyamoureux, c'est qu'ils sont d'abord capables de gérer leur solitude. Ils sont très autonomes et indépendants, sinon ça ne marche pas du tout. Et
oui, c'est ça. On a dit donc les troubles, c'est pas la majorité du tout des polyamoureux, non. Mais là on a une question dans ce sens. Elle demande s'il y a des règles dans le contrat de ces couples pour éviter les tensions dues à la jalousie. Par exemple, toujours sortir à trois au restaurant, ou quand on est invité, on y va toujours à trois. Dans les troubles, il y a troubles, c'est un lapsus.
Alors les contrats couples ou les contrats troubles, ça peut être pas mal à certains moments. Mais ça, en fait, là, quand on dit contrat, ça veut dire qu'on a beaucoup communiqué sur les règles du jeu, sur on se met en accord, voilà.
Il faut qu'il y ait des règles, hein, quand même.
En tout cas, si on met pas des règles, on explicite, c'est-à-dire on nomme ce qu'on veut pas. Et à chaque période, ça peut évoluer. Moi, j'étais pendant, 9 ans en couple ouvert, donc dans le polyamour. Et puis maintenant, je suis passée plutôt en exclusivité pour apaiser les tensions.
Ouais, vous nous avez dit pour une durée d'un mois.
Là, c'est pour, on teste une durée d'un mois. Mais c'est ça le contrat. C'est le contrat pour l'instant. Voilà, on a remis un nouveau contrat, on a remis des nouvelles règles. Mais peut-être que ça va encore changer, on n'en sait rien. Mais l'histoire, c'est de pas de se faire trop souffrir avec ça. Ça n'a aucun intérêt.
Il faut être bien armé psychologiquement. Hein. Faut aller
bien.
Oui,
il faut être bien dans ses baskets. Ouais. Faut s'aimer, faut être capable de confiance en soi, de parler sans arrêt, de voir comment on peut prendre confiance dans la relation avec l'autre aussi.
Alors, on a une question d'Anne-Laure sur Instagram, un peu plus intime. Elle nous dit, sexuellement, est-on plus épanoui? Est-ce qu'on est plus épanoui en étant polyamoureux? Est-ce qu'on fait toujours l'amour à trois ou pas, d'ailleurs?
Alors déjà, ce n'est pas forcément des troubles, hein, on l'a vu tout à l'heure. Oui, il y a plus de ressources, donc il y a plus de sexualité, normalement. Mais pas forcément, parce que souvent, et notamment pour les femmes, hein, quand on a un partenaire avec qui on s'entend bien sexuellement, on tombe très amoureuse et on a envie d'approfondir, toujours avec le même, en fait. Alors, je ne dis pas que pour les hommes, ça ne peut pas arriver. Mais ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Et donc, ce n'est pas évident de dire, tiens, je suis très amoureuse et j'adore faire l'amour avec cet homme-là. Et pourquoi pas, tiens, il y a mon autre amoureux qui arrive demain. Ah oui, donc il faut que je change. C'est pas non plus gênant de passer d'une personne à une autre. Hein. Moi, il m'est arrivé même de passer d'un homme à un autre dans la même journée. Il y avait des moments où je me disais, ah, mais finalement, c'est pas si mal que ça. J'y arrive pas si mal, j'y arrive même bien. Et puis il y a des moments où c'est pas pareil.
C'est plus compliqué. Ouais. Merci beaucoup Véronique d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous éclairer donc sur cette forme d'amour différente qui sort donc de la norme mais qui peut fonctionner, on l'a compris. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous donner toutes ces explications.
Oui, merci à vous. Allez, maintenant Mélanie, on va passer à un tout autre sujet. On va se pencher sur notre fertilité. Comment la booster quand on souhaite concevoir un enfant? Comment évaluer qu'il y a peut-être un problème de ce côté-là? C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Tout de suite, nous accueillons donc notre invitée santé. C'est vous, professeure Nathalie Massin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de la reproduction au centre AMP de l'hôpital intercommunal de Créteil. Alors, avant de nous expliquer comment on peut préserver sa fertilité et vérifier ses propres capacités à concevoir un enfant, est-ce que d'un point de vue général, on peut parler de la fertilité des Français? Quel est le constat aujourd'hui et quelle est l'évolution, on va dire, ces dernières années?
Bon, il y a clairement une diminution depuis plus de 7 ans, puisque si on regarde le taux de naissance, on était globalement autour des 800 000. Et là, on atteint pas mal les 700 000. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'effet Covid, mais vraiment, depuis 7 ans, on voit cette diminution de la natalité en France qui peut être liée pas uniquement à une baisse de la fertilité, bien mais sûr. Aussi à un phénomène de société.
Et cette baisse de la fertilité, elle concerne plutôt les femmes ou les hommes ou les deux pareils?
Alors, les deux, différemment. Donc, il y a vraiment scientifiquement démontré aujourd'hui une baisse de la qualité du sperme depuis, si on compare par rapport à 20-30 ans. Donc ça c'est un fait avéré. Et puis pour les femmes, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que comme la fertilité chez la femme est extrêmement liée à l'âge et que les femmes conçoivent de plus en plus longtemps, on manque d'études, de recherches pour savoir si une femme de 35 ans aujourd'hui, elle a réellement moins de chances de concevoir qu'une femme de 35 ans il y a 30 ans.
Ouais, c'est ça, c'est difficile de comparer. Est-ce que la France, donc vous avez décrit un peu pour la France, mais j'imagine que c'est valable pour à peu près tous les pays industrialisés, en tout cas, c'est ça?
Oui, on en a Europe, même c'est partout, exactement ouais. La même chose. On voit très bien. Donc en France, on a été longtemps les champions du nombre d'enfants par couple. Hein. On était au-dessus de deux, on est resté longtemps au-dessus de deux, alors que les autres pays en Europe étaient déjà descendus. Bon, ça y est, là, on est à un petit peu plus que 1,8, je crois. Donc,
comme les autres,
rien à voir avec les pays en voie de développement,
évidemment. Mais... D'ailleurs, face à ce constat, l'OMS a même revu à la baisse les normes de fertilité convenables. On est passé de 30 millions de spermatozoïdes à 15 millions. On a dû donc revu les standards acceptables à la baisse, c'est bien ça, professeur?
Oui, tout à fait. Donc sur la concentration des spermatozoïdes et également sur la mobilité. Donc, l'OMS a vraiment mis la santé reproductive au sein de la santé, ce qui était quelque chose un petit peu neuf. Donc finalement, de reconnaître que d'être en bonne santé, de vouloir faire un enfant, c'est fait partie aussi d'être en bonne santé. Et les recommandations ont changé, c'est-à-dire que la définition de l'infertilité, c'était 2 ans d'essai bébé sans réussite. Et donc là, maintenant, on est passé à 1 an. Ah oui. Il y a des recommandations, quand on a plus de 35 ans, de faire un petit point au bout de 6 mois et de pas attendre trop longtemps.
Les choses ont changé, effectivement. Alors, vous avez cité justement en exemple l'exemple de la femme de 35 ans, parce que c'est clairement, je crois, à cet âge-là que chez les femmes, ça bascule. Hein.
Oui, alors c'est vrai que j'aimerais bien détricoter un petit peu ça, parce que ce n'est pas un effet on-off, ce n'est pas blanc-noir. On a en fait entre 20 ans et 45 ans, je dirais, toute une gamme de gris qui s'étend. Alors, c'est vrai que le gris devient un petit peu plus foncé à partir de 35-38 ans, mais il faut vraiment avoir conscience que il y a pas vraiment un moment où on peut parler de chute. En plus, c'est extrêmement angoissant de parler de chute. Et après, c'est pas parce qu'on dit que ça baisse que ça n'est plus possible. Mm-hmm. C'est juste qu'il faut entendre que
c'est moins performant.
Voilà, ça marche moins bien à chaque cycle, donc il faut s'attendre à mettre plus de temps pour faire un bébé. Mais en gros, les statistiques montrent qu'une femme qui va commencer son projet de grossesse à 30 ans a 5% de risque de rester sans enfant dans sa vie, à 35 ans 15% et à 40 ans 30%. Donc c'est vrai que c'est beaucoup 30%, mais en même temps il faut regarder de l'autre côté.
Il y a 70
c'est ça. Qui font leur bébé effectivement à 40 ans, sûr. Mais elles mettront un petit peu plus de temps. Donc il faut faire attention à cette notion de l'âge qui est effectivement très
stressant. On a l'impression que tout s'écroule dans nos ovaires à 35 ans
fini. Voilà. Non. Par contre, effectivement, ça veut dire que c'est vrai que ça marche moins à chaque cycle, donc ne pas attendre si ça ne marche pas.
Donc la meilleure des choses à faire si on veut maximiser ses chances, c'est quand même de l'avoir à 20 ans, entre guillemets.
Oui, mais bon, je crois qu'il faut être prêt. Aujourd'hui, on a un sentiment de jeunesse qui est beaucoup plus long qu'avant.
Et puis, on va peut-être pouvoir congeler ses ovocytes bientôt.
On va pouvoir congeler effectivement ses ovocytes. C'est autorisé dans la nouvelle loi. Voilà. Attention, pas à n'importe quel âge.
Exactement. Voilà. Et les femmes pourront peut-être prévoir, effectivement. Alors, avec l'espérance de vie qui s'allonge, on aurait pu penser que la période de fertilité des femmes s'allongerait aussi, mais ce n'est pas le cas. En fait, la ménopause, elle ne survient pas plus tard.
Alors, les statistiques, là, il y a une étude récente qui montre qu'effectivement, si C'est le cas. En fait, ça, 2 ans, on a gagné 2 ans.
Ah, c'est déjà
quand
même, ça.
Ouais. Ouais, mais on n'a pas gagné 2 ans de fertilité. De fertilité.
Ah, c'est juste la ménopause qui
oui,
un peu plus
oui,
tardive.
Les femmes sont en moyenne ménopausées 2 ans plus tard. Mais ce qui fait vraiment la chance de conception, c'est la qualité de l'ovocyte. Mmh. Et l'ovocyte, en fait, c'est une cellule qui naît avec la femme. Et donc, à 40 ans, bah, c'est une cellule de 40 ans. Hein. On peut très bien imaginer, on voit très bien déjà nos cellules du visage qui se renouvellent et on voit les rides. Et ben, c'est un peu la même chose. Il faut voir sur les ovocytes. Mmh. C'est une cellule qui est là depuis 40 ans et qui a souffert.
On n'arrête pas de parler des femmes, là, mais les hommes, est-ce que l'âge, ça a un impact sur eux et sur leur niveau de fertilité?
Oui, il y a aussi un impact, mais c'est vrai que l'impact, il est moins visible. Hein. Là, par exemple, où, pour donner ses ovocytes, on peut... la loi de... en France, on accepte les femmes jusqu'à 37 ans. Mmh. Les hommes, c'est 45 ans. Mmh. Et c'est vrai que l'homme vieillit moins vite, en quelque sorte. Mais dès 30 ans, l'homme, on voit un impact sur le risque de fausse couche, les malformations sur les bébés, etc. Donc, il y a un impact, mais il est moins important, moins flagrant.
Et l'impact du tabac, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Elle vient d'arrêter de fumer, donc elle est très contente.
Bon, enfin, j'ai 46 ans, je n'ai pas de projet de grossesse.
Non. Alors oui, le tabac, c'est aussi mauvais pour l'homme que pour la femme. Hein. Les statistiques,
c'est bien de le dire, ça aussi.
Voilà. Mmh. En fertilité naturelle et en fertilité et en assistance médicale à la procréation, on voit très bien que les chances de conception sont à peu près divisées par 2.
Ah oui.
Alors, donc ça peut paraître pas grand-chose, c'est vrai que c'est pas contraceptif, hein, le tabac. Et ce que je dis souvent, vous avez peut-être des copines qui ont fait leur bébé alors qu'elles fument comme des pompiers, et puis moi je vous dis d'arrêter, je vous conseille d'arrêter. Mais en fait, leur copine, peut-être qu'au lieu de faire leur bébé en 6 mois, elle l'aurait fait en 3 mois. Donc c'est ça en fait, le délai de conception est multiplié par 2. Les chances d'implantation, quand on prend un embryon d'un homme ou d'une femme qui pousse et qu'on le met dans l'utérus, il a 2 fois moins de chances de s'implanter. Et ça avance l'âge de la ménopause chez la femme, 2 ans plus tôt.
C'est pas... On a bien fait d'arrêter. Bref, merci professeur Massin. Dans quelques minutes, on va rentrer un peu plus dans le détail et voir comment on peut précisément évaluer notre propre fertilité. Il existe même des consultations spécialisées aujourd'hui pour faire ce genre de check-up. On verra également s'il y a des moyens fiables de booster nos chances de concevoir un enfant. On va vous détailler tout ça sur Europe 1. Alors restez avec nous.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et à nos côtés pour parler de fertilité, le professeur Nathalie Massin. Vous êtes médecin de la reproduction, responsable du centre d'aide médicale à la procréation à l'hôpital intercommunal de Créteil. On parlait juste avant du tabac. Qu'en est-il du cannabis sur la fertilité?
Ah oui, c'est vraiment un problème, d'autant plus que la consommation de cannabis est plus importante chez les plus jeunes à un âge finalement où l'exposition est plus risquée. Et souvent associé déjà au tabac. Donc c'est déjà un problème en soi. Alors moi j'ai l'habitude de sortir une petite histoire, donc je ne suis pas sûre de sa véracité à 100%, mais qui a actuellement un contraceptif masculin qui est à l'étude à partir de cannabinoïdes pour dire qu'il y a vraiment un impact sur la mobilité des spermatozoïdes du cannabis. Ah oui. Sans compter l'impact sur la diminution de la fréquence des rapports sexuels.
Oui, on est un peu plus endormi, non, j'imagine. Du coup ça veut dire que ça n'endort pas que les neurones, entre guillemets, je plaisante évidemment, mais ça endort aussi les spermatozoïdes.
On peut le penser.
C'est sur les hommes surtout, plus que sur les femmes, l'effet?
Oui. Oui, tout à fait. Alors attention à la chicha, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une consommation en tout
très
cas,
mauvais pour les poumons, ça c'est sûr aussi.
Oui, un paquet, hein. Quand on fume chicha, c'est un paquet de clopes, donc vous imaginez l'impact sur la fertilité. Donc quand on veut faire un bébé, pas de chicha.
Et l'exposition aux pesticides, là encore, ça pourrait causer une baisse de la fertilité?
Oui, alors en fait ce sont des perturbateurs endocriniens, je pense qu'on
a beaucoup
tous
parlé,
entendu ça, voilà. Le problème c'est qu'ils sont ubiquitaires, ça veut dire qu'on en trouve partout.
Dans nos objets quotidiens.
Voilà, exactement.
Dans les bougies parfumées, ça c'est des perturbateurs endocriniens.
Voilà, tout à fait, effectivement, à travers les plastiques.
Les produits ménagers, je crois.
Les produits ménagers, les cosmétiques.
Donc difficile de les éviter, ceux-là, comme il y en a partout dans notre quotidien.
On peut choisir. On peut choisir. Alors, il y a des petites... petites plaquettes qui sont très bien faites, qu'on trouve très bien sur Internet, ce que je mange, comment je fais mes courses, etc. Donc pour savoir ce qui est mieux d'utiliser, par exemple, éviter de manger, de faire réchauffer ses aliments dans le plastique. Ça, c'est tout bête. Mais...
Particulièrement quand on essaye d'avoir un bébé. Bien sûr, d'accord. Est-ce que le stress et le trop-plein de stress surtout peut avoir un impact peut-être, hein? Moi, je sais que j'ai mis du temps à avoir des enfants, c'était difficile, et on nous disait arrête d'y penser, ça viendra, comme si le fait que je stresse allait avoir un impact sur ma fertilité, c'est vrai ou pas?
En tout cas, après, il n'y a rien de plus stressant que de vous dire d'arrêter d'y penser.
Bah oui, c'est encore pire.
Voilà. Alors, c'est une question compliquée parce que je pense que c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, quand on n'arrive pas, on devient plus stressé. Et finalement, est-ce que ça participe ? Alors, je crois qu'il faut quand même rester un peu cool et pas trop culpabiliser. Hein,
mais on n'a pas d'études cliniques qui prouvent l'impact du stress sur
voilà,
le niveau de fertilité.
Il y a des études qui ont été faites pour doser les marqueurs de stress au moment où, par exemple, on fait un transfert d'embryon. Et les études sont assez discordantes. Certaines disent qu'il n'y a vraiment pas d'impact, même si les facteurs dans le sang de stress sont élevés. Donc, il faut relativiser.
Alors, professeur Massin, dans votre établissement, vous avez mis en place un test baptisé Fertilité Check-up. Alors, c'est quoi ce test et ça s'adresse à qui ?
Alors, on a proposé de faire cet examen aux femmes sans qu'il y ait de nécessité... d'avoir essayé de faire un bébé et de ne pas avoir réussi, et sans même nécessité d'avoir donc un partenaire, parce que donc ça fait 4 ans qu'on fait ce test, mais il y a 4 ans, et ben évidemment, quand on voulait avoir un point sur est-ce qu'on a un problème pour faire un bébé, et bien si on n'avait pas essayé, si on n'avait pas de partenaire, ce n'était pas possible, et donc toutes les femmes seules ou les couples de femmes ne pouvaient pas avoir accès à des examens. Donc le principe, c'est un examen assez complet, il y a un petit questionnaire où on prend tous les antécédents, et puis après on fait une échographie qui va permettre de vérifier
les ovaires,
l'utérus, les trompes et vérifier qu'il n'y a pas d'endométriose. En fait, l'objectif, c'est de chercher un obstacle à la survenue d'une grossesse parce que c'est toujours mieux de savoir que de ne pas le savoir. Et puis, évidemment, on va parler de réserve, j'imagine.
Réserve ovarienne. Alors, justement, c'est quoi la réserve ovarienne?
Alors,
vous la mesurez surtout?
Oui, voilà. Alors, la réserve ovarienne, il faut. Donc, on a deux ovaires. Enfin, les femmes ont deux ovaires. Il faut se représenter ces ovaires comme deux sacs de billes et on remplit notre sac de billes quand on est dans le ventre de notre maman.
À la naissance, il est bien fourni ce sac de billes.
À la naissance, on en a 1 million, mais on a déjà commencé à les perdre.
Ah oui.
Et ce stock, il est défini. Ça veut dire que contrairement pour les hommes où les spermatos, ils peuvent se multiplier. C'est pas bon. Je refais un
petit cours de SVT.
Voilà. Mais pour la femme, le sac de billes,
reproduit pas au fur et à mesure.
Non,
quoi,
hein, ouais. Pas du tout. Et puis en plus, il est percé. Donc on les perd au fur et à mesure.
C'est une belle image. Enfin, au moins on comprend bien. Hein. Non, mais c'est vrai. Je trouve.
Alors donc, ce qu'on fait avec l'échographie, en fait, c'est on regarde le dessus du sac de billes. Donc évidemment, on peut pas voir toutes les billes qu'il y a à l'intérieur, mais en fonction de ce qu'on voit sur le dessus, ça donne une représentation de ce qui reste à l'intérieur. Et donc, ça nous donne effectivement une idée de s'il reste beaucoup de billes dans l'ovaire ou pas.
D'accord. Il n'y a pas une prise de sang sinon pour savoir où on en est de cette réserve ou des choses comme ça.
Voilà,
si, on peut faire ça aussi.
Oui, ça s'appelle le dosage de l'AMH, hormone antimullérienne. Et en fait, ce qu'on peut voir à l'échographie quand on compte justement ces follicules ou le dosage de l'AMH, ils sont extrêmement bien corrélés. Donc nous, dans notre test, on n'a pas souhaité faire l'AMH. C'est une prise de sang, donc bon, c'est pas forcément très agréable. Comme on voit déjà cette réserve à l'échographie. Mmh. Et en plus, on n'a pas besoin d'attendre le résultat de la prise de sang.
Et c'est dépendant de l'âge, j'imagine, ou est-ce que parfois, je ne sais pas, Julia est un petit peu plus âgée, légèrement que moi.
Hyper fertile,
mais est-ce qu'elle peut avoir une réserve ovarienne qui serait meilleure que la mienne ? Ça, je veux dire, il y a des cas, j'imagine, étonnants, oui. Peut-être parfois.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne question parce que c'est vrai, autant on sait que la qualité de l'ovule, il est vraiment lié à l'âge. Hein. Vous avez 30 ans, vous avez une qualité de 30 ans, 35 ans. Par contre, le nombre est vraiment très variable d'une femme à l'autre. Effectivement,
elle a peut-être plus de billes que moi.
Exactement.
C'est possible.
Exactement.
Mais peut-être de moins bonne qualité que vous, Mélanie. Faudrait faire le test.
Mais c'est la qualité qui compte pour faire un bébé. Et donc, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus se multiplier sur les réseaux des dosages d'AMH, des autotests de fertilité pour savoir notre niveau de fertilité, alors que l'AMH n'est pas du tout un facteur de chance de conception. C'est éventuellement un facteur qui va nous dire si on a encore beaucoup de temps devant nous ou pas pour concevoir. Et encore, ce n'est pas si évident que ça parce que les femmes qui ont un niveau bas, en fait, gardent un niveau bas assez longtemps. Et si elles n'ont pas besoin d'avoir accès à l'assistance médicale à procréation, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de leur soutirer beaucoup de billes pour pouvoir faire un bébé, eh bien, ça ne les empêche pas de concevoir naturellement. Naturellement, il suffit d'une bille tous les mois.
Hein. C'est ça, exactement.
Et alors, pour les femmes justement qui nous écoutent, quels sont les conseils de base qu'il faut retenir en préventif ? Comment prendre soin de sa fertilité ?
Alors, tout ce qu'on a vu sur l'exposition à l'environnement,
pas
tous
de tabac,
les facteurs
pas de cannabis,
de risque,
pas de chicha, ça on a compris.
Voilà, c'est des rapports sexuels.
Oui, c'est ah important. Oui, ça vraiment, on avait oublié.
Voilà. Et puis, effectivement, ben, s'interroger dans son projet de vie. Et si on voit qu'on n'a pas le moyen, on va dire, de pouvoir démarrer une conception avant 35-37 ans, effectivement, réfléchir avec un professionnel de santé, à savoir si ça peut avoir un intérêt de faire une préservation de la fertilité. Mais je dirais, on pourrait militer pour le fait que autour de 30 ans, toutes les femmes puissent avoir une échographie pelvienne, justement pour dépister s'il n'y a pas des problèmes pour entraîner ça. Par exemple, on a vu samedi une femme en check-up qui était complètement asymptomatique et on lui a découvert des kystes des deux côtés des ovaires. Oui. Donc 32 ans, aucun souci hein, pour faire un bébé. Mais si elle envisage de reporter son projet de conception plus loin ou qu'elle envisage plusieurs enfants, eh bien on sait que ces kystes, en fait, ils vont faire vider ses ovaires plus vite et qu'elle risque de se retrouver effectivement à un moment où on ne pourra pas l'aider pour faire un bébé.
Et donc, qu'est-ce que vous lui avez dit à l'issue de ce check-up ?
Vite, allez faire un bébé
tout de suite. Oui, c'est ça. C'est ça la préconisation ?
Alors, oui, bah dans ces cas-là, effectivement, on dit que la réserve risque de diminuer plus rapidement pour elle. Et donc, si, l'idéal, c'est d'envisager un projet de conception sans trop tarder. Mais ça c'est extrêmement stressant aussi de pouvoir dire ça à une femme. Et donc, en l'occurrence, dans ces cas-là, on refait un petit point quelques mois après et on discute d'une préservation de la fertilité.
Pour terminer, est-ce qu'on voit hein, parfois des naturopathes conseiller des choses ou des compléments alimentaires soi-disant qui boosteraient la fertilité ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment valables et fiables ou est-ce qu'en dehors des conseils dont on a parlé juste avant, tous ces petites choses, ça ne fonctionne pas ?
Non, il n'y a rien de démontré.
Il n'y a pas de pilule magique ?
Non, il n'y a pas de pilule magique, mais après le mental, ça peut compter.
L'effet placebo, c'est ça peut-être.
Voilà, oui, je dis toujours qu'on est le meilleur médicament, le médecin est le meilleur médicament à donner aux patients, évidemment, ouais.
Alors merci beaucoup professeur Moissin de nous avoir accompagné ce matin et de nous avoir donné tous vos bons conseils en matière de fertilité, que ce soit d'ailleurs pour les femmes comme pour les hommes. Merci à vous.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine dédié à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, en direct, on décrypte pour vous ces tendances, ces modes, ces loisirs nouveaux qui nous font du bien et qui méritent tout simplement d'être testés. Alors justement, en matière de test, à midi, on met d'abord en éveil nos papilles avec la chronique gastronomie. Aujourd'hui, c'est Sophie Menu qui en a les rênes. Bonjour Sophie.
Bonjour à toutes.
On va se faire du bien avec un plat réconfortant. Une petite gamelle d'ailleurs vient arriver devant moi là, ça a l'air délicieux. De quoi va-t-on parler ?
On va parler de la choucroute, l'emblème de la gastronomie alsacienne.
Ah, mais quelle bonne idée. Ah, vous avez bien fait de venir. Ensuite, ce sera à Soizic Belin de nous captiver. Bonjour Soizic.
Bonjour.
Alors, on va partir en visite avec vous, mais des visites qui sortent de l'ordinaire.
Voilà, des visites un peu spéciales avec des thématiques différentes, vous allez voir. Il y en a pour tout le monde.
Super. Et enfin, on terminera la partie tendance du jour avec vous, Sophie Braffman. Bonjour.
Bonjour.
Là, Sophie, vous nous présentez ce midi des fringues qui vont mettre tout le monde d'accord, non ? Filles ou garçons
Oui, la tendance unisexe. Alors, on est un peu perdu, je sais pas vous, unisexe. Non genré, binaire, non binaire, on ne sait plus très bien. Donc je vais faire un petit rappel historique aussi.
Très bien, merci beaucoup Sophie. Ce sera à vous de jouer dans quelques minutes, mais tout de suite, on passe à table dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Il est midi et 3 minutes, et donc l'heure de passer en cuisine. Enfin, en tout cas, d'écouter les conseils culinaires de Sophie Menu ce lundi. Sophie, on part donc en Alsace, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, on part en Alsace, et je vois que Julia a déjà commencé à croquer un knack.
Elle est à fond sur la choucroute, j'ai déjà fini la première saucisse.
Alors, si je vous dis choucroute, vous pensez effectivement Alsace. Mais en fait, l'histoire raconte que c'est en Chine.
Mais non,
qu'elle serait née. Ouais. Cheveux d'ange, d'un blanc nacré, croquante et acidulée. Lorsqu'elle est nouvelle, c'est meilleur. Mais on raconte surtout que la choucroute est apparue en fait pendant la longue construction de la muraille de Chine. Les ouvriers rentraient chez eux pendant les hivers rigoureux et laissaient en fait dans des jarres le chou, était leur alimentation de base, et ce chou fermenté. Et ils le conservaient comme ça à leur retour. Ensuite, les grandes invasions, Attila et les Huns le rapportent en Europe en passant par la Bavière, l'Autriche, l'Allemagne, hein, où c'est aussi un élément phare de la gastronomie.
Et donc l'Alsace.
Et donc l'Alsace, voilà, ça. Où la lactofermentation était déjà utilisée pour certains légumes comme le navet.
D'accord, on sait d'où ça vient le mot choucroute ?
Tout à fait, ça vient de l'alsacien. Alors je vais essayer de le dire avec le bon accent. Chourcroute, alors chour c'est aigre et croûte c'est herbe.
Ah d'accord. Okay. Mais comment on a commencé à en faire alors ?
Alors à l'époque, les paysans en Alsace râpaient le chou et le mettaient à saler en même temps que la viande dans des grandes jarres. Il y avait même des gens qui passaient dans les villages pour permettre cette conservation. Alors on mettait des herbes, des aromates, du genièvre, du cumin. Et il y avait même un gars qui avait un coupe-chou et qui passait de village en village pour couper ce fameux chou. Parce qu'il faut savoir, moi j'ai eu la chance de visiter des choucrouteries. Mm-hmm. Les choux sont, c'est pas des bébés, c'est des triplés. C'est énorme.
On n'a jamais vu ça, je pense.
C'est énorme. Et il y a d'ailleurs dans les usines en fait, de conservation de choucroute, c'est carrément des piscines où on met le chou qu'on tasse comme ça, on met du sel, ça sent extrêmement fort, parce que la fermentation passe. Mais c'est d'ailleurs très intéressant.
Ça doit être quelque chose à visiter, ça doit être sympa, ça aussi. Sois-y, la prochaine fois, dans les loisirs, il faut aller visiter une choucroute.
Un pince-nez, sois-y, parce que ça sent très très fort.
Et moi, je suis restée bloquée sur l'origine de la choucroute, en fait.
C'est incroyable. On ne se doutait pas de ça, mais cette fermentation, est-ce que c'est bon pour la santé, ça ?
C'est très bon pour la santé. Alors, vous connaissez sans doute le marin anglais James Cook, qui l'embarqua sur ses navires au XVIIIe siècle, parce qu'il s'aperçut que le scorbut qui décimait ces marins, en fait, était aider en fait la choucroute avec la fermentation, aider les marins à lutter en fait contre ce scorbut. Et on s'aperçoit d'ailleurs que beaucoup de légumes fermentés sont très bons pour la santé. Oui. En fait, ça fait partie d'un élément vivant, la choucroute, comme tous les éléments fermentés. Donc elle regorge de bienfaits, de vitamines, de probiotiques.
Pour notre flore intestinale.
Exactement,
c'est ça,
Mélanie, tout à fait.
Mais alors pourquoi seulement en Alsace ?
Parce qu'en fait, le chou s'épanouit en Alsace, parce que le climat...
Le chou s'épanouit.
Mon chouchou. Alors d'ailleurs, il pousse dans la plus grande région productrice en France, s'appelle Krautergersheim.
Oui, c'est à 20 km au sud de Strasbourg, je connais bien.
Sérieusement ?
Non, c'est marqué sur mes notes.
Et en fait, on fabrique la choucroute là-bas depuis le 16e siècle. Elle fait carrément vivre toute la région. C'est incroyable. Quand vous passez sur l'autoroute, vous sentez l'odeur du chou qui fermente dans toutes les ateliers.
Mais je crois qu'il y a aussi des recettes différentes. Il y en a même au poisson. J'en ai goûté de très bonnes, des choucroutes de la mer.
Exactement. Bravo. Alors, Julia, dit-elle, après avoir croqué trois saucisses...
C'est ça. Mais vous avez l'air assez viandarde, quand même.
Oui, j'aime bien aussi le poisson.
Et c'est beaucoup plus digeste et beaucoup plus léger, parce que ce qui est embêtant dans la choucroute, enfin c'est pas embêtant d'ailleurs, c'est la charcuterie, mais il faut qu'elle soit bien faite. Mais effectivement, on peut la trouver, puisqu'il y a très très longtemps aussi, les bateliers, les pêcheurs, quand ils ramenaient dans leur filet tous les poissons des rivières, ils l'utilisaient justement pour préparer cette choucroute.
Alors justement, la question qui vient...
On veut la recette, parce qu'on a déjà tous commencé à goûter, enfin presque, non, Julia et moi, simplement.
Je voulais quand même vous dire, oui d'ailleurs, il n'y a que vous qui mangez, mais...
Avec Soisy qu'on est au régime.
Il faut goûter parce que alors, cette choucroute vient de la fabrique Stoffer. Alors Stoffer, ça se trouve en grande surface, mais c'est très artisanal encore. C'est une maison alsacienne qui fabrique cette choucroute et elle contient beaucoup moins de sel.
Ah bah oui.
Elle est très légère. D'ailleurs, vous constatez
c'est
que...
C'est très bon, franchement, c'est pas délicieux. Très salé.
Mais juste mais si on veut en faire une à la maison, comment on fait, Sophie ?
Alors Julia, mettez votre tablier.
Ça y est, c'est fait.
Alors, vous faites fondre un oignon dans un peu de graisse d'oie.
D'accord.
Vous allez rajouter votre choucroute... Alors, vous achetez une choucroute de bonne qualité, puisque choucroute, c'est en fait le chou et c'est le plat.
Ouais.
On est d'accord.
Les deux.
Ça veut dire les deux. Vous ajoutez du vin blanc, du bouillon, vous laissez cuire 30 minutes. À côté de ça, si on l'a fait au poisson, vous faites poêler vos poissons, vous faites un beurre blanc. Mm-hmm. En fait, c'est ultra simple, Mélanie, vous qui aimez cuisiner.
J'ai jamais fait la choucroute. Mais bah c'est vrai que mon boucher me vend tout un peu comme ça et je me régale, mais j'ai jamais fait moi-même. Mais alors, c'est passé long en cuisson, je ne me rends pas compte.
Non, c'est 20-30 minutes de réchauffage et puis la charcuterie, vous l'achetez déjà préparée, en fait, c'est vite fait. Ou alors, vous faites comme j'ai fait, vous l'achetez déjà préparée.
Dans une bonne choucroute, en tout cas de viande, il y a plusieurs types de saucisses, il y a combien, trois types de viande différentes ?
Il y a des pommes de terre, histoire de rajouter un peu, parce que c'est léger, l'hiver, il fait froid.
Mais le chou, c'est léger, en fait.
C'est très léger et comme on le disait, c'est très digeste et c'est très bon pour la santé. Donc, effectivement, des knacks, de l'échine, des des petites saucisses genre Meurthe, Montbéliard, voilà. Et puis c'est déjà pas mal.
C'est bon. Si on reste sur les poissons et leur garniture, on peut prendre quoi ? Des filets de cendre ?
Filets de cendre, filets de poissons de rivière en fait, puisque en fait en Alsace hein, passe le Rhin et l'Ille, donc cendre, omble chevalier, et puis vous pouvez ajouter du saumon et même du saumon fumé si vous voulez faire une choucroute un peu élégante. Les fêtes arrivent bientôt, voilà. Ça évidemment, le saumon fumé, vous ne le faites pas cuire, vous le mettez au dernier moment sur la choucroute et c'est vraiment un plat complet.
Et accompagné d'un bon petit verre de vin avec modération, bien sûr.
Un bon Riesling.
Exactement, Julia, un bon Riesling d'Alsace.
Et c'est le paradis, mais merci beaucoup Sophie pour toutes ces explications, ces conseils. Je pense que ça va choucrouter chez ces verres, c'est dur à dire, chez les uns et les autres, grâce à vous. D'autant que je crois que cette semaine, le froid va vraiment débarquer. Donc la choucroute, c'est parfait pour se faire plaisir et se réchauffer.
Hyper réconfortant,
ouais. Exactement. Bon, ça va encore chauffer dans ce studio dans quelques minutes. D'autres tendances arrivent, et notamment des visites en ville originales qui nous seront présentées par Soizic Belin. Et puis avec Sophie Braffman, on va découvrir une tendance mode qui se développe de plus en plus. Les vêtements gender fluide pour hommes et pour femmes. Tout le monde peut les porter. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. Alors la choucroute de Sophie Menu juste avant, c'était somptueux.
Franchement, c'est régalé. Hein.
Ah ouais, mais on sent pas
sent la choucroute dans le studio.
Bon, on se sent pas légère là tout de suite. Alors on va partir en balade avec vous, Soizic Belin. On vous écoute.
Très bonne idée. Alors il me semble qu'on est nombreux à pratiquer le tourisme urbain. Alors c'est assez simple. Hein. Et puis la tendance s'est accentuée avec les confinements. Le staycation, soit l'idée de séjourner dans sa propre ville, de booker un hôtel à 10 minutes de chez soi, ça cartonne en ce moment. Dans la même logique, visiter ou revisiter votre ville, finalement, n'aura rien d'absurde. Alors, quand on a la chance de vivre dans un des spots touristiques mondiaux, c'est quand même assez intéressant.
C'est clair. Quand je pense que j'ai jamais amené ma fille à la Tour Eiffel, c'est déjà. Mais oui, c'est quand même honteux. Oh. Alors, vous êtes finalement une touriste dans votre propre ville, hein, Soizic ?
Oui, parce que justement, vous parliez de Tour Eiffel, mais moi, la Tour Eiffel, je l'ai faite l'année dernière, il me semble, pour la première fois. Ouais. Voilà. Donc, c'est autant vous dire, on ne visite jamais véritablement sa ville.
Dommage.
D'ailleurs, autour de cette table, qui connaît Paris sur le bout des doigts ?
Non, personne.
Peut-être pas sur le bout des doigts, mais moi, je fais des trucs sympathiques.
Ah oui ?
Ouais, genre les bateaux mouches. J'aime bien.
Hyper sympa, les bateaux mouches.
C'est super. Ouais.
Alors pour ceux et celles qui souhaiteraient connaître davantage le lieu où ils vivent finalement, il y a des visites thématiques et c'est un très bon compromis au circuit classique. Alors je me suis particulièrement intéressée aux initiatives parisiennes parce que c'est ma ville d'adoption. Cependant, sachez que ces tours d'un genre particulier ne sont pas réservées qu'aux habitants de la capitale. Ce week-end, j'ai testé une balade parisienne insolite avec l'organisme Zigzag Paris et je me suis évadée dans un Paris coquin. Rendez-vous donc dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, le 9e arrondissement. Réputé pour son côté sulfureux, son célèbre Moulin Rouge et ses multiples sex-shops. Alors nous sommes une dizaine à se retrouver à la sortie du métro Saint-Georges, une petite place, théâtre des hauts lieux du libertinage du 18e siècle. Le guide nous met rapidement dans le bain. À cette fenêtre, une célèbre courtisane pouvait à loisir observer ses bienfaiteurs en marche pour la rejoindre. Les bâtiments devant lesquels nous avons l'habitude de passer, hein, sans se poser de véritables questions, finalement on commence à aller connaître un petit peu mieux. Au-dessus de cette porte, la lanterne rouge rappelle qu'à l'époque, c'était une maison de plaisir. Mais si on voyage dans le temps, un visiteur ne manquera pas de demander le plus naïvement possible hein, comment faire la distinction entre des véritables salons de massage et ceux réputés pour leur finition. Je vous disais, on était dans le 9e arrondissement de Paris. Alors Florence était de la partie et voici son ressenti après la visite.
En fait, moi je me sens tout de suite prise par le truc. Je me représente, j'ai les images sous les yeux et c'est vraiment comme si j'y étais. Alors, même si on peut être un peu dérangé dans la rue, on se met complètement dedans. Et en plus, en allant d'un endroit à un autre, le fait de circuler comme ça dans Paris, avec toutes ces lumières, avec tout ce monde qui grouille, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un côté jouissif là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Il y a une émotion que j'aurais pas de la même manière devant mon écran. Voilà.
Alors si le côté hot, ce n'est pas vraiment votre truc, ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts.
Alors justement, c'est quoi les thématiques que vous nous conseillez, Soizic ?
Alors, il y a, ça fonctionne par thématique, donc il y a le Paris du crime.
Ah, ça va vous plaire ça, Julia.
Ah, c'est génial, ça,
c'est pour,
même pour les années et tout.
C'est frissonnant, le Paris de la franc-maçonnerie, un peu plus secret, un peu plus mystérieux. Le Paris et les métros, coucou Laurent Deutsch. Mais sachez qu'il est aussi possible de donner la voix aux femmes et avec Féministes in the City, c'est chose faite. Mais qui sont ces personnes qui vous font découvrir votre ville autrement? Alors j'ai donné la parole à Lucie Collin qui est guide pour Féministes in the City, une start-up créée par Cécile Farah et Julie Maranguet.
Ça fait 3 ans maintenant que j'ai rejoint l'aventure Féministes in the Cities
Et j'ai pas de formation à la base pour être guide. Donc ce qui m'a plu, c'est déjà le fait d'être formée à quelque chose que je connaissais pas. Et ce qui est hyper intéressant, c'est justement ces échanges et ces débats qu'on peut avoir, puisque nous, on n'a pas vocation à expliquer ce qui est bien ou mal. C'est vraiment créer de l'échange et du débat avec les participants. Donc c'est toujours hyper enrichissant.
Sophie Menu, Sophie Braffman, vous êtes tentée par lequel de toutes ces visites originales là?
Moi, j'aime bien le Paris du crime. J'adore les séries avec les faits divers.
Moi aussi, c'est ma passion.
Moi, les francs-maçons, peut-être, puisqu'on ne les connaît pas, finalement.
Ouais, intéressant. Oui,
effectivement. Alors, avec ces visites thématiques, c'est un peu comme si on mettait en avant la petite histoire, celle qui ne figurait pas forcément dans les manuels d'histoire, en se baladant ainsi en extérieur, dans les pas de tout un chacun, et plus forcément en suivant les traces des hommes et des femmes connus et reconnus. On fait revivre l'histoire. Justement, Hugo a créé Dans les pas 2.
Dans les pas, ça fait 2 ans et demi que ça existe. J'ai 5 visites en circuit et 2 en préparation avec des sujets comme Victor Hugo, les femmes de la Révolution, les Templiers. L'objectif, l'ambition de ces visites, c'est que la balade et la narration soient aussi précises que l'information et aussi mémorables que les vannes. Voilà, c'est ça, une balade dans les pas.
Bon, Soisy, est-ce que vous avez quelques noms, adresses à nous donner?
Alors oui, prenez note. Et puis, comme nous le disait ici il y a peu le professeur Lejoyeux, invité dans ce studio, la marche l'hiver dans le froid, ça booste notre morale en berne. Donc, encore une autre raison de chausser ses souliers les plus confortables pour remonter le temps. À Lyon, vous avez Cybelle qui propose aussi une découverte insolite de la ville. À Bordeaux, vous avez La Belle Endormie. Et sachez que Féministe in the City existe aussi à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et à Marseille.
Bah, c'est parfait. Il y en a pour de nombreuses personnes. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Soisy, pour la visite. Oui, en tout cas, ça donne de nouvelles idées de sorties sympas et qui changent un peu de l'ordinaire. On a besoin de ça en ce moment. Merci. Alors, dans la chronique de Sophie Braffman qui arrive, je crois que là aussi, on va sortir des sentiers battus, clairement. Sophie, on fait un focus aujourd'hui sur une mode d'un nouveau genre dans laquelle, justement, il n'y a plus de genre du tout, c'est ça?
Exactement. Alors, je vais essayer de rendre ça un peu plus clair. Déjà, pour nous, femmes des années 80, enfin en 90, la tendance unisexe se limitait à une chemise blanche, hein, par exemple, pour une présentation PowerPoint, voilà, réunion du lundi. On veut qu'on nous prennent au sérieux, eh bien, on emprunte au vestiaire masculin. On ajoute en général un petit blazer. C'est intéressant d'ailleurs de voir pourquoi on emprunte au vestiaire masculin quand on veut être prise au sérieux. Alors, il y a plusieurs façons de décliner cet unisexe. On le décline aussi, par exemple, pour une promenade bucolique dans la forêt, un gros caban enfilé sur un cachemire d'homme assorti d'un jodhpur, le fameux pantalon d'équitation, rehaussé de bottes cavalières. Alors là, c'est unisexe, mais pour une bourgeoise un peu tradie. Hein. On est plutôt dans la forêt de Rambouillet, Chantilly, voire à Versailles. Alors, on a une déclinaison plus plouc de l'unisexe, moi, que j'aime beaucoup.
Oui, nous, on aime bien les plouks.
Ça va vous plaire, celle-là. Alors, charentaise, cardigan Versailles, des caleçons d'homme ou leggings pour squatter son canapé le dimanche soir devant Capital ou une série Netflix pour Julia, qui les aime beaucoup. Et bonne nouvelle, en 2021, le vestiaire unisexe, il est bien plus vaste qu'il n'y paraît. En mode comme ailleurs, on n'invente rien, on réinterprète.
Mais c'est quoi la définition de l'unisexe en mode, justement? Parce qu'on parle aujourd'hui de collection unisexe, non-genrée, gender fluide. On est un peu perdu, c'est vrai.
Oui, je sens que vous êtes comme moi, vous êtes un peu perdu. Ouh là 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 là, on est complètement perdu. Alors, on va vite remettre les pendules en marche. Alors, les vêtements unisexe, ce sont des vêtements faits pour hommes et pour femmes, par exemple une chemise Oxford, un jean Levi's, une doudoune Uniqlo, une paire de Converse, des bons basiques qui en gros sont devenus des standards de la mode et qui vont parfaitement dans les deux vestiaires. Alors que le style gender fluide ou non genré, ça consiste à naviguer librement d'un vestiaire féminin à un vestiaire masculin, mais on va garder les attributs de chaque vestiaire, féminité et masculinité.
J'avais pas compris tout
ça. Voilà, donc c'est beaucoup plus créatif. Alors on le voit bien avec cette jeune génération, la génération Z sur Instagram, qui n'hésite pas à se jouer des codes traditionnels. On voit des garçons avec des colliers de perles ou des sacs à main, des filles en hoodie capuche et des chinos coupés pour mecs. Fini le cliché du rose pour les filles ou du bleu pour les garçons.
Bon, je vais laisser ma petite robe à paillettes à mon mari, je crois, cette année. C'est quand même plus facile pour les filles de piocher dans le vestiaire masculin que pour les hommes, non? On est d'accord.
Alors, je suis d'accord avec vous, Mélanie.
Je vois pas ce que mon mari pourrait me piquer, franchement, en fait, cette chemise à fleurs là.
Vous allez voir, vous allez être surprise, parce que la mode est toujours très créative. Et dans la série des pièces phares, je vais vous faire une petite liste avec celles qui sont portées indistinctement par monsieur ou madame en 2021. Alors, on retrouve le caba, ce grand sac à main fourre-tout qu'on croyait à tout jamais réservé aux femmes. Aujourd'hui, les hommes ont des sacs à main, et notamment celui-ci. On espère qu'ils sont un peu moins bordéliques que nous, parce que je ne sais pas vous, mais moi, le caba, évidemment, il y a plein de choses à l'intérieur.
Plus c'est grand, plus il y a de bordel.
Et oui, généralement, c'est un peu le cas. Côté chaussures, on a les Chelsea Boots. Mmh. Alors, vous savez, c'est ces bottines avec des élastiques sur les côtés.
Ah bah oui.
Vous voyez lesquelles avec pas un bout tout. Plutôt rond, il y a une sursemelle.
Ah oui, 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 je vois. Chelsea Boots.
Je ferai un petit post Insta sur Bienfait pour vous tout à l'heure pour vous les montrer. Alors, celles-là sont indistinctement portées par les hommes et les femmes. On a les mocassins sans chaussettes, Julia, les mocassins, ça c'est très important.
J'en ai acheté à paillettes, ça se fait pas.
Ouais, ah, si à paillettes, mais pas de chaussettes par contre pour les mocassins.
Non, c'est les chaussettes qui sont à paillettes.
Ah, c'est les chaussettes. Alors, pour vous, je vous conseille des mocassins sous forme de slippers pour les femmes, Gucci, Hermès, enfin, ou toute autre marque pas chère. ou alors, pour monsieur, on a le mocassin Tod's, un grand classique, hein, qu'on peut porter avec un chino rose. Là, ça a un petit côté Jean-Charles qui passe son été à l'île de Ré, avec le polo Ralph Lauren et le pull en V nonchalamment posé sur les épaules. L'aristo aime toujours la couleur. Ensuite, on a la chemise volantée, vous allez voir. Alors, ah ça, oui. Mélanie, vous parliez de chemise. Mm-hmm. Là, c'est pas discret, c'est encore moins discret, par exemple, qu'une lavalière. Aujourd'hui, les hommes la portent, alors notamment les néo-dandies ou les gothiques pour la version moche. Sinon, on a le manteau façon léopard d'Amanda, hein, qui ira toujours au bois, auquel on ajoute le collier de perles d'Anne-Charlotte, Anne-Chacha pour les intimes. Alors, ce collier de perles, il a vraiment quitté Versailles et c'est même devenu aujourd'hui l'emblème du cool.
Ok, on a bien noté toutes ces petites pièces.
C'est génial. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, les grandes marques réfléchissent toutes à la question du genre ou du non-genré quand elles établissent leur collection, Sophie ?
Alors, de nombreuses marques y réfléchissent, c'est totalement le cas, car si le sexe est biologique, le genre est culturel. J'aurais aimé que ce soit de moi,
non,
mais ce n'est pas
vous.
Le cas.
Non.
Non, c'est un peu trop intelligent. C'est de Jeffrey Genny, le prix Pulitzer en 2002 pour son livre Middle Sex. Le genre est donc une idée soumise à l'interprétation et il suffit de revoir et de réinterpréter l'histoire de la mode pour s'en apercevoir. On a tout à l'heure appris que la choucroute venait d'Asie, c'était quand même insensé.
On en apprend des choses cette émission.
Vous allez
quand même,
voir, par exemple, si on voit Louis XIV, il portait des chaussures à talons rouges qui sont
c'est
très
vrai.
Réputées. Puisqu'on il les
était genderfluid
déjà. Ah, totalement genderfluid. C'était un dingue, Louis XIV, très très genderfluid, très en avance sur son temps. On peut parler aussi des chemises à volant ou des chemises fleuries, notamment sous la Régence, que portaient les hommes. Donc là aussi, c'est très inventif. À la fin du XVIIIe siècle, bien sûr, je parle des nobles. Le tiers état ne s'habillait pas beaucoup. Au XXe siècle, on a le style garçon des années 20. On voit avec la cravate et le tailleur. Donc là,
bien
on
sûr.
Va complètement piocher dans le style masculin. Arrive ensuite Gabrielle Chanel avec son blazer doré qui est emprunté au vestiaire militaire. Ou alors encore la petite veste chanelisante qui, elle, est issue de la veste de Bounia. Le couturier Ted Lapidus, plus tard, dans les années 60, qui est pionnier du vestiaire unisexe dans son époque. Et si on veut avoir un couturier beaucoup plus récent, on pense bien évidemment à Gautier avec sa jupe et sa marinière pour hommes. Bref, les exemples fleurissent. Aujourd'hui, les designers de renom jouent avec les codes. Un Nicolas Ghesquière chez Vuitton, une Vivienne Westwood avec l'esthétique anglaise et son originalité. Et même dans les grandes enseignes accessibles, Zara, H&M et Asos proposent des collections unisexes. Le design non-genré est désormais de tous les défilés et ce sera même bientôt le cas en lingerie. Donc là, je vous en parlerai lors d'une autre chronique.
Oui, parce génial. Que j'ai envie de porter les culottes de monsieur, c'est ça ?
Alors, le caleçon pour monsieur, c'est déjà fait pour madame. Et moi, j'ai hâte de voir la culotte pour monsieur, bien dans sa peau, bien dans sa culotte. Et bien, ce sera bien fait pour vous.
Eh bien, vous nous avez promis cette chronique. Nous allons la voir d'ici peu.
On
merci beaucoup, Sophie. Moi, j'adhère franchement à cette mode gender fluid. Ouais. C'est bien la société évolue, la mode aussi, c'est très bien comme ça. Merci à toutes les trois pour ces chroniques très instructives et donc bien fait pour vous. C'est fini pour aujourd'hui.